sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 248e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Ce soir est comme une semaine sur deux, un dimanche sur deux. Je suis avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir. Désolé pour le coup de son au générique. Il y a une loupiote qui marche plus sur la console.
J'ai pas fait exprès. Chacun de nos auditeurs a perdu 2 décibels d'acuité auditive.
On fait ce qu'on peut. La prochaine fois, j'essaierai d'en faire presque plus.
Mais cela ne va pas nous empêcher de vous présenter l'actualité des 2 semaines écoulées. On va commencer avec une information sécurité vie privée. J'étais quand même très surpris du titre, j'ai quand même dû relire 2 fois. Parce qu'on parle tout simplement d'ouvrir le courrier des gens, mais leur courrier
non,
électronique.
Bah oui, voilà, c'est pas la même chose.
C'est-à-dire une remise en cause frontale de la confidentialité des communications.
Non, puisqu'il ne s'agit pas c'est pas le courrier qu'on ouvre, c'est juste les communications électroniques. Ça va, écoute. C'est pas comme si on faisait l'ouverture de tous les courriers,
c'est
enfin.
C'est pour des usages secondaires de notre temps. Hein, les communications sérieuses se font toujours par courrier, n'est-ce pas,
Pierre ? Bah oui, tout à fait. Puis, écoute... T'as quelque chose à te cacher, toi ? Parce que, voilà, si t'avais rien à cacher, voilà, tu serais pas inquiet, tu t'en inquiéterais pas de cette actualité-là.
Et comme d'habitude, c'est sous couvert de bonnes intentions qu'on
évidemment,
on
oui.
veut...
Violence sexuelle sur mineur. C'est le mot-clé. Attention.
Vous pouvez pas être contre.
Ah bah non,
c'est comme le terrorisme.
C'est interdit d'être contre.
Enfin, contre la lutte contre les violences faites aux mineurs, comme on peut pas être contre la lutte contre le terrorisme.
Exactement.
Donc, les doubles négations, ça peut être compliqué.
Pour être plus précis, du coup, c'est la Commission européenne. Alors, on en avait déjà parlé en mai 2022. Alors, c'est en mai 2022, en tout cas, que ça a été passé. Il me semble qu'on avait déjà parlé dans cette émission. Et évidemment, il y a du niveau, on va dire. Notamment, donc, il est prévu que les fournisseurs de services susceptibles d'être utilisés à mauvais escient. Déjà, j'aime beaucoup ce concept. C'est qu'est-ce qu'un service susceptible d'être utilisé à mauvais escient à des fins d'abus sexuels sur enfants en ligne ? Alors, est-ce que un wiki ouvert, genre Wikipédia, ou je suis désolé, hein, mais des tarés pourraient très bien s'amuser à envoyer des images de leur saloperie sur Wikipédia, sur des pages qui soient pas trop liées, etc., on planque un peu. Est-ce que Wikipédia, du coup, est obligé de déployer des technologies pour identifier ça. Je sais pas. Et sachant que ils devront déployer des technologies qui soient les moins intrusives au regard de la vie privée en l'état actuel de la technique dans le secteur et qui limitent autant que possible le ratio d'erreur.
C'est-à-dire on doit détecter si l'image est suspecte tout en ne pouvant pas comprendre le contenu de votre communication.
Oui. Alors,
c'est Gérard Majax.
Accessoirement.
Qui était un magicien dans les années 80 pour les plus jeunes de nos auditeurs.
Pour le chiffrement de bout en bout, c'est un des problèmes, si la communication est chiffrée entre le terminal qui envoie le message et le terminal qui reçoit le message, comment que c'est possible de savoir le contenu ? Je cite à nouveau la réponse de la Commission européenne, les technologies de chiffrement de bout en bout sont technologiquement neutres, leur proposition est technologiquement neutre, elle ne précise pas quelle technologie devrait être utilisée pour la détection. Et il s'agit d'une obligation de résultats et non de moyens. Donc, ce qui laisse au fournisseur le choix de la technologie à exploiter sous réserve du respect de garanties strictes. Alors, une obligation de résultat, les gens. Vous êtes complètement allumés. C'est magnifique. Alors, un petit jeu. Imaginons que quelqu'un s'amuse à envoyer des messages sur Twitter en les codant. Par exemple, il prend un client GPG, il partage une clé avec... ses correspondants, on va dire, et il chiffre les messages, il colle les messages sur Twitter, messages chiffrés. Est-ce que Twitter a une obligation de résultat sur ces messages ? Je veux bien la réponse, si vous l'avez, donc envoyez-nous un message à l'adresse habituelle. Bref, il y a plein de problèmes. Grosso modo, c'est le chat, mais c'est aussi les potentiels, enfin c'est aussi les mails, enfin c'est hyper vaste et c'est inexploitable. Le Sénat, le Sénat, quand même, attention, hein, le Sénat français a suggéré de rejeter cette proposition au titre que c'est une surveillance de masse des communications. Donc, des sénateurs de droite. Enfin,
les sénateurs de droite, oui. Pourtant, au niveau vie privée, c'est quand même pas les plus vigilants.
Putain, c'est eux qui nous défendent cette fois-ci. Ça me fait bizarre à dire. Hein. Ça fait 11 ans qu'on dit du mal d'eux, quasiment. Et puis là,
même si la droite sénatoriale française trouve ça suspect, c'est que.
Là, c'est quand même aller loin. Et petit détail, 2/3 des mineurs européens sont contre l'analyse de leurs messages personnels. Mais c'est pour votre bien, les enfants. Hein, allez.
De toute façon, vous êtes mineur ou vous n'avez pas le droit à...
Vous avez le droit à rien.
Vous n'avez pas le droit d'exprimer votre opinion. En tout cas, on considère qu'elle compte pas. Vous êtes mineur.
Donc, à suivre, parce que de toute façon, c'est qu'une proposition au niveau de la Commission européenne, donc il y a tout un imbroglio législatif avant que ça soit appliqué, mais c'est quand même assez balèze.
Bon, rappelons quand même des conseils de bon sens, mais a priori pas pour tout le monde, puisque c'est un réel problème, a priori. Ne publiez pas de photos de vos enfants. Ne publiez pas de photos d'autres personnes que vous, sauf s'ils avaient l'autorisation express et dans un contexte très maîtrisé. Et évitez de publier, d'ailleurs, ne publiez pas des photos de vos enfants publiquement.
Non, même en privé.
C'est-à-dire que si vous le partagez en privé, faites attention à faire ça dans un accès qui est strictement réservé aux personnes qui sont censées avoir ces photos.
Alors, je me permets de rappeler un cas qui a été évoqué il y a quelques mois dans cette émission. Des parents qui ont envoyé des photos de leurs enfants nus à leur pédiatre et qui se sont vus bloquer leur compte mail Google. Il y a eu du Google et je crois qu'il y a eu du Apple aussi, je ne sais plus lesquels étaient concernés. Donc, vous ne pouvez pas envoyer ce contenu, non pas parce que c'est illégal, puisque là c'était parfaitement légal, mais juste parce que la détection automatique ne peut pas marcher. Point. Mais voilà, c'est un peu trop compliqué comme concept, je pense, pour la Commission européenne.
Et même si vous envoyez des photos de vous, enfin si vous publiez des photos de vous, faites quand même très attention.
Oui.
Autre nouvelle, oui, on reste sur les mineurs et Internet, puisque une proposition de loi là, qui est soumise à l'Assemblée nationale en France vise à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et donc obliger les réseaux sociaux à contrôler l'âge par des moyens qui ne sont pas encore précisés, peut-être le même que pour l'accès aux sites
pornographiques.
Voilà. En tout cas, le problème avec avec cette proposition de loi, c'est l'interdiction des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'un réseau social ? Et donc, dans le projet de loi, ça reprend une définition qui est a priori.
Voilà, ouais, alors, je l'avais pas encore lu.
A priori, cette définition vient du Digital Market Act.
Oui.
Et donc, Pierre, je ne sais pas si tu as lu cette
définition. Je l'ai devant les yeux.
C'est une plateforme en ligne permettant aux utilisateurs finaux de se connecter ainsi que de communiquer entre eux, moi j'appelle ça Internet, de partager des contenus et de découvrir d'autres utilisateurs, d'autres contenus sur plusieurs appareils et en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations. Ça inclut IRC, ça inclut les forums, ça inclut le chat. En gros, ça inclut à peu près tout Internet, sauf les pages web.
Même certaines pages du Minitel, je crois, ça rentre là-dedans, du coup.
En gros, sauf le mail et encore, et les sites web, on va dire uniquement, on peut pas dire passif, mais les sites web où vous faites uniquement de la consultation, tout ce qui permet de partager des contenus, c'est quand même le but d'Internet, rentre dedans.
Même un blog
on
rentre
déjà
dedans.
Une incompréhension d'Internet, parce que on est dans l'Internet, veut dire uniquement média, on va dire qui vient d'un émetteur global. Un émetteur et il y a un récepteur qui est passif. Alors, Internet, par définition, et ça a été créé pour ça, c'est pour que chacun puisse être producteur de contenu et puisse échanger des idées, de la musique, des vidéos, de la poésie. Le problème, c'est que ça peut être utilisé pour bien d'autres choses, mais à la base, c'est pour que chacun puisse communiquer. Donc, on est sur une définition très large. Et donc, notamment Mark Reiss, hein, qui était ancien journaliste sur Next Impact, voilà, a fourni, lui, son analyse. Et il considère là que les forums, jeuxvideo.com, alors, pas dire sans être dire trop critique sur la qualité des forums de jeuxvideo.com. Alors, si je fais une recherche et que je tombe sur des pages de ce forum, c'est que j'ai dû merder dans ma recherche. Donc, les forums, les forums de manière générale, et même Wikipédia,
LinuxFR,
voilà, LinuxFR, ou encore Wikipédia sont concernés. Enfin, je pense que c'est la réaction qu'on a tous eue quand on voit cet article, en tout cas pour tous ceux qui ont jeté, puisque voilà, ça a été publié sur des sites d'information, ça a été publié sur des réseaux sociaux tels que Twitter. En tout cas, c'est pas très rassurant, Pierre.
Oui, après, on nous fait la remarque sur IRC qu'effectivement, ça fait doublon avec le RGPD qui interdit déjà l'accès aux réseaux sociaux aux enfants, aux mineurs de moins de 15 ans.
D'accord.
Sauf accord des parents. Et c'est vrai que là, ça reprend le même texte. Donc, ce qui m'intrigue, du coup, c'est... Comme ça se superpose, j'ai du mal à comprendre. Après, là, l'obligation va peut-être être un chouïa plus stricte. Je m'attends à ce que ce soit plus vicelard. Donc, à suivre. Parce que là, pour l'instant, c'est qu'un décret, enfin, c'est qu'une proposition de loi, c'est pas encore une loi, mais ça, c'est tellement large, ça pourrait être très très rigolo.
Tu parlais de chiffrement de mail, Pierre, et Gmail active le chiffrement de bout en bout, mais uniquement pour ses clients professionnels.
Oui, et puis, alors, je vais répéter encore une fois ce que j'ai déjà dit plein de fois. Faites un test. Vous prenez votre navigateur web, alors c'est un peu compliqué à voir, j'avoue. Et vous regardez les communications qu'il y a entre votre client mail et le serveur. Donc ça, vous pouvez le voir avec les outils de développement web, il y a un onglet pour ça. Et vous regardez si déjà votre message est envoyé en clair à Google ou pas. Parce que normalement, donc chiffrement de bout en bout, le message ne devrait pas être envoyé en clair à Google par ce biais.
Google n'est pas capable de le déchiffrer.
Sauf que votre message déjà a été rédigé dans une interface propriétaire, propriété de Google. Donc Google peut très bien, que ce soit de leur propre chef ou sur injonction de l'État ou d'une tierce partie, injecter du code qui va envoyer votre message en douce, en parallèle à Google ou au tiers susnommé.
Mais ça, c'est en plus quelque chose de connu. Hein. Les données qui sont envoyées dans un formulaire, c'est pas parce que vous avez validé le formulaire que c'est envoyé. Et c'est pas forcément parce que vous n'avez pas validé le formulaire que ça n'a pas été envoyé. Faites attention.
Tout à fait. Et donc, derrière, outre ce problème-là, il y a un autre problème. C'est qui gère la clé de chiffrement et la clé de déchiffrement? Où est-ce qu'elle est stockée? Est-ce que si je reçois un message chiffré sur mon ordinateur, sur mon PC, est-ce que je peux lire le message en question sur mon téléphone portable?
Est-ce que je peux le lire avec un client autre que Gmail?
C'est encore une autre question. Est-ce que je peux le lire avec... Enfin, mais c'est vrai que... Est-ce que le Gmail... C'est vrai que... Est-ce que le lecteur de mail de mon téléphone portable et le lecteur de mail de mon PC peuvent tous les deux lire le message? Si oui, ça veut dire que la clé est gérée par Google.
C'est vrai.
Et donc, il n'y a aucune forme de chiffrement de bout en bout, en fait. Puisque... Enfin, si, c'est chiffré de bout en bout, mais c'est Google qui a la clé quand même. Donc, c'est quoi? C'est... promis juré, on ne va pas déchiffrer le message. On fait attention. Et accessoirement, le chiffrement de bout en bout n'est présent que pour les professionnels, pas pour le grand public. C'est-à-dire que c'est uniquement sur les comptes Google, alors Workspace Enterprise Plus, Education Plus et Education Standard.
C'est le principe d'avoir une clé sur son PC, c'est que la clé privée n'est accessible que par les applications qui en ont besoin.
Exactement. Et là, c'est pas du tout le cas. Et donc, accessoirement aussi, il y aura besoin d'une clé de chiffrement propre à l'entreprise. J'aimerais bien avoir accès à un compte Google Pro juste pour essayer de voir la tronche des messages qui sont envoyés quand on communique avec le monde extérieur. Mais j'ai carrément autre chose à faire que de me créer un compte Google Pro et de payer pour ça pour tester. Mais clairement, c'est de la poudre aux yeux. C'est juste parce que les gens disent « Ah, il faut chiffrer les mails !» Oui, on va chiffrer les mails, mais au final, ça n'avance pas le schmilblick.
On retrouve d'autres actualités après un premier morceau de musique. Nous allons écouter le High James Lady. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campuslille.com. C'était le High James Lady. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus en 16,6, la radio numérique terrestre, et campuslille.com. C'est la deuxième partie des actualités. Et maintenant, on va passer au bref logiciel. En attendant Godot, je t'ai obligé, Pierre.
Non, t'inquiète pas, c'est normal.
Oui, je suis allé voir le site. Oui, d'ailleurs, je suis allé voir la page Wikipédia du projet Godot, effectivement. C'est en hommage à la pièce de théâtre de Samuel Beckett.
Exactement.
Et puis, j'ai pas vu le rapport entre un moteur de jeu vidéo et une pièce de théâtre, mais bon.
Hein, faut bien choisir un nom. Donc oui, j'en parle parce que toujours sympathique de voir ce genre de projet, surtout qu'il n'y en a pas tant que ça en logiciel libre qui existe. Donc, Godot, qu'est-ce que c'est ? C'est un moteur de jeu vidéo, comme tu l'as dit. Un moteur de jeu vidéo, du coup, qu'est-ce que c'est ? En fait, clairement, hein, en particulier les titres premium, les plus gros titres du marché du jeu vidéo, lorsque vous avez un FPS qui sort ou ce genre de choses, ils ne s'amusent pas à redévelopper tout un moteur de jeu vidéo. Même en fait, ça s'applique même à la plupart des jeux vidéo. À chaque fois, c'est le gros du travail, c'est les graphismes, c'est l'histoire, c'est le scénario, c'est le contenu du jeu, plus que le moteur qui va savoir afficher les différents éléments à l'écran, les agencer, etc. Et donc, c'est à ça, notamment, que sert un moteur de jeu vidéo. Il y en a plusieurs qui existent dans le monde du logiciel propriétaire. Il y a le moteur Unreal, notamment. Et après, les autres, je ne les connais pas parce que je ne développe pas de jeux vidéo. Mais là, en libre, il y en a un qui fait référence, c'est Godot. Jusqu'à ces dernières années, on avait surtout des petits composants individuels. On avait la SDL, qui était assez connue pour le développement de jeux vidéo, surtout des jeux vidéo en 2D. Et là, Godot, c'est un moteur assez complet, avec quand même pas mal de fonctionnalités, qui a vraiment beaucoup de choses, qui a tous les outils nécessaires, qui a des interfaces graphiques pour le développement, et qui a aussi pas mal de documentation. Donc je vous invite vraiment, si vous vous intéressez au développement de jeux vidéo, ou si vous voulez faire découvrir le développement à des jeunes, et pour les intéresser, vous voulez faire du jeu vidéo, je pense que ça peut être une assez bonne piste. J'ai pas de cobaye pour tester, malheureusement.
Alors, sur la page Wikipédia du projet, je trouve pas d'exemple de jeu, ou alors je lis trop vite, un minimum connu dans le monde du libre, qui soit développé avec le moteur de rendu Godot.
Alors, pour ça, il y a Wikipédia, en fait, t'as pas vu sur la page. Veuillez patienter. Voilà, Video Games Using Godot. Sauf que moi, je suis vraiment planqué, enfin, je suis vraiment loin derrière en termes de Kingdoms of the Dump, lui, il n'est pas encore sorti. Deponia, mais c'est du libre ou c'est du pas libre? Je pense que...
Le moteur est libre, mais le...
Mais en fait, dans le lot, il y a un jeu Switch, il y a des jeux iOS, PlayStation 4 qui ont été faits avec...
Eh oui.
Il y a un Sonic Colors.
Sonic, oui, on l'a vu en même temps. Oui.
Sonic Colors qui a été fait avec Godot. Donc, voilà.
C'est quoi la licence de Godot, du coup?
Godot, le moteur, est sous licence. C'est une licence permissive, il me semble. Ouais. C'est une MIT.
MIT, oui, donc ça peut être utilisé sans problème dans des projets propriétaires.
Ben, s'ils veulent être compatibles avec iOS ou macOS, je crois qu'il vaut mieux éviter la GPL. Parce que Apple n'aime pas trop la licence GPL et a des conditions d'utilisation sur ses App Store à peu près incompatibles avec la licence. Évidemment.
Tous les étudiants en filière scientifique, école d'ingénieurs ou mathématiques connaissent le logiciel MATLAB et il existe une alternative libre qui est GNU Octave qui sort en version 8.1.
Tout à fait. Je trouve que c'est un bel hommage au bâtiment dans lequel on est. Hein,
le bâtiment M1 de la cité scientifique du campus de Villeneuve-d'Ascq.
Oui, donc... Alors,
pour mathématiques, évidemment.
Voilà. Donc, nous, Octave, c'est un logiciel assez complet. Hein, ça correspond à... Bah, oui, ça correspond effectivement à du MATLAB, aux différentes solutions qui existent. Donc, c'est un logiciel, donc déjà il y a une interface graphique, il me semble. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Hein. Il y a une interface graphique, il y a aussi un accès uniquement en ligne de commande. Il y a du calcul ça fait vraiment l'équivalent de MATLAB, donc on a du calcul matriciel, on a vraiment tout ce qu'il faut. Je vais pas vous faire la liste des changements parce que c'est du logiciel scientifique, après il faut vraiment tout connaître et j'avoue que ça fait tellement d'années que je ne m'en suis pas servi. Mais voilà, c'est toujours intéressant de voir que il n'y a pas que les logiciels proprio là-dessus. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu as mis les pieds dans une université récemment, Alexandre? Parce que
l'université de Lille 1, ouais, okay, une semaine sur deux.
Ouais, donc, on ne sait pas si c'est utilisé par contre à l'université. On aurait dû chercher avant, je n'y ai pas pensé. Désolé, mais en tout cas, voilà, c'est nouvelle version. Si vous cherchez un logiciel, alors si vous cherchez juste une calculatrice, non, ce n'est pas ça. Si vous cherchez un logiciel de mathématiques avancées, vous pouvez y aller. Il y a des outils aussi d'analyse de son et ce genre de choses hein, dedans. Ça peut faire aussi de l'analyse de signal. Donc, toujours utile à avoir.
Les applications Qt vont résister au crash ou au redémarrage du compositeur Wayland. Et pour Pierre, c'est très important. Il va nous expliquer pourquoi.
Tout à fait. Surtout qu'en plus, les gens en question qui ont fait ces patchs-là sont en train de faire les patchs correspondants aussi pour d'autres projets comme GTK ou autre. Ça, c'est un comportement, c'est une nouvelle fonctionnalité. Alors, je ne sais plus si c'est de Windows Vista ou Windows 7. Je crois que c'était dans Windows Vista que ça a été introduit. Microsoft, là-dessus, ils ont plutôt bien fait leur travail. S'il y a un plantage sous Windows du pilote de la carte graphique, le pilote de la carte graphique redémarre. Et alors, il y a 2-3 éléments, le gestionnaire de fenêtre qui va redémarrer lui aussi. Mais les applications vont rester en vie. Ça va clignoter quelques secondes. Mais voilà, ça redémarre et ça tient. cette fonctionnalité, elle est toute bête, mais je la trouve assez importante. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fait assez peur avec Wayland, parce que Wayland, contrairement, donc Wayland, nouveau système d'interface graphique pour Linux, contrairement à l'ancien système était découpé en plusieurs composants qui, avec le temps, étaient devenus franchement stable, ça risquait plus de bouger, alors que là il y a pas mal d'éléments qui ont été regroupés en un seul, qui ça, c'est le Wayland Compositor, donc le compositeur d'interface, et ça, ça m'a toujours assez ça m'a toujours inquiété, c'est que ce composant là, s'il plante, toutes les applications se faisaient fermer, la session complète était fermée, alors que là, donc la fonctionnalité, c'est que si cet élément là plante, il est redémarré et pouf, les applications sont toujours là. Et ça, c'est extrêmement important parce que plutôt que d'essayer là de corriger des bugs, c'est se prémunir des conséquences des bugs qui va quand même y avoir.
Plus robuste.
Voilà, et c'est pas si fréquent que ça, les gens qui pensent à la robustesse plutôt que de se dire non, mais ces bugs-là, ça devrait plus exister, c'est bon, on n'a pas besoin. Et c'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement important et il était temps qu'on ait ce genre de solution sous Linux.
Alors, la dernière nouvelle sur les logiciels libres me laisse assez perplexe. Donc, j'ai du mal déjà à comprendre dans la news. Si on parle d'un App Store commun pour toute la distribution Linux ou d'un système commun, autant un système commun, en gros, qui remplacerait RPM et Deb, pourquoi pas, mais un App Store commun... Quand on connaît la politique, va dire, de distribution de Linux, voilà, où chacun a ses choix de prendre des logiciels plus ou moins en amont, plus ou moins finalisés, ou en tout cas avec des versions qui peuvent être versions bêta ou des versions dont on sait qu'elles sont en support long terme. Donc Pierre, qu'est-ce que tu comprends toi de cette nouvelle ?
La nouvelle en question, c'est autour de Flatpak. On en a déjà parlé à deux trois reprises. C'est une solution pour distribuer les applications sous Linux qui, contrairement aux applications à la distribution classique d'applications par les distributions Linux justement, là les applications sont fournies dans des lots complets. C'est-à-dire que si vous avez votre distribution qui utilise KDE 5.28 et que l'application a besoin d'éléments de KDE 5.32, et l'application va y avoir accès à ces éléments-là puisqu'ils vont être installés en plus de l'application. Donc il n'y a pas ce problème de compatibilité avec les distributions. Il y a d'autres inconvénients qui viennent avec ça, hein, puisque ça augmente la taille des données sur le disque, etc. Il y a plusieurs problèmes techniques par rapport à ça. Mais donc Flatpak est une solution pour distribuer de manière assez universelle des applications sous Linux. On en a parlé il y a d'ailleurs. Je la raconte après, c'est le petit lien avec l'actualité d'il y a deux semaines. Là, l'actualité qui nous concerne, c'est les projets KDE et Gnome, enfin en tout cas leurs fondations, les fondations KDE et Gnome qui sont le bras financier, on va dire, des KDE et Gnome. Ces fondations ont décidé de travailler ensemble avec Debian Linux pour construire réellement un App Store par-dessus Flatpak, donc avec la notion de pouvoir payer pour les applications.
Donc on serait sur uniquement sur Flatpak, donc on remplacerait pas le système de dépendance et distribution tel qu'on connaît.
Non, c'est un complément.
C'est un complément. C'est-à-dire que
si tu es sur une Debian stable et que tu as besoin de la dernière version de l'application QGIS parce que tu fais de la cartographie et qu'il y a des trucs trop bien dedans, tu l'installes par Flatpak.
L'avantage, donc, ce serait plus soumis au bon vouloir d'une distribution, ça serait des paquets disponibles pour toutes les distributions.
Tout à fait.
Et les principaux systèmes. Alors, voilà, c'est ça que j'avais du mal à...
Attention, ce que tu décris là, Flatpak, ça existe déjà. La nouveauté là, c'est le fait
d'avoir un App Store commun, j'ai bien compris.
Où on peut filer des sous. C'est surtout cet aspect-là qui est important. C'est on pourra filer des sous sur des logiciels libres. C'est bien, il était temps que... on est une solution pour montrer aux gens non mais il y a vraiment des gens qui travaillent comme des esclaves en fait derrière, ça serait bien de leur filer au moins de quoi acheter du pain.
Parce que là vous pouvez donner de l'argent à des fondations, mais là vous pourrez carrément donner à un auteur précis pour un logiciel.
C'est ça, plus clair. Normalement c'est ça l'idée. Alors on sait pas ce que ça va donner, et surtout gros bémol si je puis me permettre, une actualité d'il y a deux semaines, c'était Canonical. Donc, qui chapeaute les distributions Ubuntu, qui a imposé à toutes les distributions Ubuntu, donc Ubuntu et tous ses dérivés, de ne plus installer Flatpak par défaut, parce que nous, on a fait Snap, et que Snap, c'est trop bien, et que Flatpak, c'est des vilains. Je résume, mais ça va franchement pas plus haut de leur part. Donc, on a un projet qui veut couvrir toutes les distributions Linux, et encore une fois, il y a Ubuntu qui va dire, non, nous, on fait de notre côté parce que c'est mieux et que c'est nous les plus forts.
Merci Pierre. Quelques brefs divers et variés après un deuxième morceau de musique, nous allons écouter The Disco Viking, Boogie. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106.6, la radio numérique terrestre, et campusstyle.com. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 03 20 91 24 00, uniquement pendant les pauses musicales comme celle-ci.
There are times in life where the only medicine is to dance. And the only balm for the burdened soul is to boogie, baby. I don't wanna fight you. I just wanna live. I don't need to take much, no. Or just a little bit. I just wanna love you, with all my heart can give. You've got me happy like a puppy, yeah. I'm feeling giddy like a kid. I can see how the world feels. They wanna fight to make it real. We all want cars and sex appeal, a billion bucks and lots of pills. It might seem strange to you to hear. I don't want none of that. I just want your loving.
C'était The Disco Viking, Boogie. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106.6, la radio numérique terrestre, et campusstyle.com. C'est la troisième partie des actualités et on va parler lobbying d'Apple et Foxconn. Cette fois-ci, Apple n'en a pas contre votre vie privée. par le Foxconn, donc, qui est son sous-traitant, donc, qui fabrique le matériel d'Apple, bon, les téléphones principalement, et donc qui a, avec succès, lancé une campagne de lobbying envers le gouvernement de l'État indien du Karnataka. Alors, ne demandez pas où c'est.
C'est en Inde.
Oui, mais on a bien compris. Voilà, je ne suis pas un expert en géographie de l'Inde. En tout cas, où Foxconn veut, donc, je ne sais pas s'ils veulent installer ou s'ils ont déjà une usine de production. Et donc, ils ont avec succès mis en pièces les lois sur les lois du travail, en fait, le code du travail local. Bon, je pense pas que le code du travail indien était déjà de base quelque chose de très protecteur pour les travailleurs, mais cette fois-ci, bah, ça va encore empirer.
Voilà, il passe de 9 à 12 heures de travail en
c'est
un bloc.
C'est un pays qui travaille, monsieur. C'est pas un pays qui réclame de garder la retraite à 62 ans.
Il y a tout un ensemble de trucs. Donc maintenant... Donc il y a toujours un maximum à 48 heures par semaine, ce qui est quand même pas beaucoup hein, de leur part. Je trouve qu'ils pourraient faire un petit effort, mais par contre maintenant ils peuvent faire jusqu'à 145 heures de travail supplémentaire sur une période de 3 mois, alors qu'avant c'était que 75. Là voilà, là on sent que c'est des gens qui ont envie de travailler, hein. C'est on sent que c'est des lois qui ont été faites pour le plaisir des travailleurs, tu comprends. C'est... Et surtout, ça va coûter très cher à Apple de faire ses iPhones dans ces conditions. Donc, vous comprendrez que dans votre appareil, il y aura un petit surcoût, forcément.
Connaissiez le bug de l'an 2000, vous connaissez peut-être, si vous êtes toujours très technophile, le bug de l'an 2038 qui va concerner les machines 32 bits. Bon, hein, c'est-à-dire que la date est codée sur 31 bits. Plus un bit de signe. Mm-hmm. Donc en réalité, c'est vraiment 31 bits. Si les 32 bits étaient utilisés, si l'un n'était pas signé, ça serait bon.
Bon, on n'aurait pas non plus tant de marge. Ouais.
Enfin bref, normalement, ce bug devrait plus concerner grand monde, en théorie, puisque l'essentiel des ordinateurs maintenant utilisés sont 64 bits. Sauf que, Pierre, donc, un article nous dit que les machines 64 bits pourraient être... 64 bits pourraient être également concernés.
Tout à fait, c'est un petit problème. Alors, déjà, petit rappel, hein, ça a déjà été évoqué dans une émission il y a X années, je n'ai pas cherché les archives pour savoir quand est-ce que j'en avais parlé en dégeekalisation. Donc, le problème fondamental, c'est qu'effectivement, nos systèmes avant étaient en 32 bits, et ben, sur 32 bits, il n'y avait pas la place pour mettre la date complète, et initialement... dans les années 80, ils n'avaient pas pensé à mettre deux entiers côte à côte pour pouvoir exprimer la date sur une bien plus longue période. Et du coup, eh ben le mur. La solution, lorsque le 64 bits est sorti, ça a été de dire ben, on va pas faire la même connerie. Hein. De l'an 2038, ben, quand le 64 bits pour PC est sorti, c'était vers 2004, je crois. Donc il y avait 34 ans avant l'an 2038, ils se sont dit oui, on va anticiper là, on va pas refaire la même connerie. Sauf que, il y a quand même, dans le lot, dans le système, et j'ai beaucoup aimé d'avoir ben, cette démonstration à nouveau de cette importance, il y a encore pas mal d'endroits où, ben, notamment la libc, donc l'une des bibliothèques de base pour faire tourner toutes les applications sur un système Linux ou Unix, eh ben, en fait, si vous avez la possibilité de lancer des applications 32 et 64 bits sur votre machine, les fichiers qui vont être lus ou modifiés par les deux systèmes en même temps, eh ben, il faut bien qu'ils soient au même format. Et le problème, c'est que ben, dans ce cas, eh ben, ils mettent, y a des cas où ça a été mis au format 32 bits. Et donc, ben, effectivement, si vous êtes sur un système 64 bits, mais que vous avez la possibilité d'être compatible avec les applications 32 bits, il y a encore des cas où ça va planter. Alors là, le bug risque va pas être critique. Hein. De toute façon, c'est comme le bug de l'an 2000, ça n'aurait pas eu de conséquences dramatiques. Ça aurait pu faire planter pas mal d'applications, ça aurait pu être compliqué. Alors surtout pour des gens qui utilisent l'informatique pour des raisons professionnelles, pour gérer des bases de données, ce genre de choses. Mais par contre, dans votre navigateur web, le bug de l'an 2038... pour les connexions TLS, ça pourrait être chiant. Mais voilà, là, ce bug-là spécifiquement... Vous risquez pas, vous, d'avoir...
TLS, pourquoi les certificats, la date, elle est signée sur...
Non, la date, elle est sur 64 bits. Mais ouais. Si ton PC est reparti en 1970, Il va dire que le certificat il est pas encore valide. Le certificat il a une date de signature dans le futur. Ben il va refuser.
Oui, voilà. C'est si vous avez déjà un ordinateur dont la date elle est en, ben, en 32 bits.
Si ton ordinateur est encore en 2038, grosso modo, vous pourrez plus utiliser le système 32 bits. Ce sera terminé. Voilà. Je pense que d'ici là, les dernières machines 32 bits devraient avoir été éliminées, ou il y aura tellement de saloperies sur les pages web que de toute façon les ordinateurs 32 bits seront tous à la rue quand il s'agira d'essayer d'afficher la première page web. Mais voilà, le fait que ces bugs existent encore, c'est toujours rigolo à savoir.
Un nouveau projet dans le cimetière de Google.
Oh.
Oui, ce sera les Google Group. On a eu certains projets qui pourtant avaient certains succès relatifs, mais qui était quand même utilisé, iGoogle, que j'utilisais, qui permettait d'avoir une page personnalisée.
Non, commence pas, il y en a 282 dans le cimetière.
On va dire Google Reader aussi, qui était quand même pas mal utilisé. D'autres qui ont fait un flop
Stadia.
Complet. Stadia. Bon, Google Knoll.
Hangout.
Qui était censé remplacer Wikipédia. Google Plus, qui était le réseau social de Google. Certains ont été des échecs, d'autres étaient quand même utilisés. Celui-là, il a quand même... Son petit succès, Google Groups, va pourtant mourir à petit feu, Pierre.
Alors, c'est là où c'est un peu bizarre l'état de Google Groups, c'est qu'il est mort, mais il n'est pas mort. Tu vois, on ne sait pas encore dans quel état il est. C'est une application de Schrödinger. Donc, Google Groups, en fait, c'est une application qui permet de voir des news groups. Il n'y a pas d'autre mot. Donc des groupes d'actualité ou des groupes de nouvelles, je ne sais pas comment le traduire en français. Et alors ça a été, et c'est encore très utilisé, même par des projets libres, hein, qui ont choisi d'utiliser ça plutôt que d'avoir à mettre en place leur propre infrastructure. Mais le problème, c'est que Google Groups, ben, ça fait des années, ça fait déjà 13 ans que c'est un peu dans les projets dont Google a pas grand chose à faire et qui laisse de côté parce que ça fonctionne et on n'y touche pas. Il y a à peu près une personne qui travaille sur Google Groups a priori, donc c'est pas beaucoup quand on voit la force de travail de Google, et il y a de plus en plus de bugs. Donc là c'est les derniers bugs en date a priori, c'est des envois de messages qui se font supprimer immédiatement comme ça, sans notification, sans pouvoir récupérer le message. C'est normal, la recherche elle est déficiente depuis un certain temps. C'est une plateforme à l'abandon, mais...
Après, ça peut être très bien remplacé par l'usage principal des Google Groups. Enfin, nous, tel qu'on s'en servait quand nous étions étudiants, c'était tout simplement comme une mailing list.
Tout à fait. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui se disent « Ah, mais en fait,
on peut créer
des mailing lists. On peut créer un serveur avec des mails. Ah bon ? On n'a pas besoin d'utiliser Google. »
On peut créer autre chose qu'une page Facebook.
C'est ça. Donc, ceux qui utilisent Google Groups, à un moment, il faut peut-être vous dire, vous allez peut-être devoir arrêter d'utiliser les services de Google, parce que Google peut les fermer du jour au lendemain, même comme c'est un service aussi simple que des mails.
Et une dernière nouvelle intéressante pour clore les actualités, OpenAI n'utilisera plus par défaut les données de ses clients pour entraîner ses modèles.
On aurait utilisé des données de gens qui nous appartiennent pas pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle?
Non.
Sachant que, donc, je vais faire extrêmement court. Le principe d'une intelligence artificielle, on lui donne un ensemble de résultats corrects et après, il en déduit un modèle statistique pour créer un résultat correct à partir juste d'un point de départ. Il va dire, on me donne un sujet, donc ça veut dire que derrière, je dois mettre un verbe, un complément. Je vous le fais de manière extrêmement simpliste, évidemment. Mais le problème, c'est que ce qu'il a appris, on peut lui faire réciter quasiment. En lui donnant les bons paramètres en entrée, on peut retrouver quasiment le contenu qu'il avait en entrée. Et donc, forcément...
Ça ne sort jamais que des choses qui sont déjà connues.
Exactement. Il n'y a pas de vraie création, il y a un mélange de plusieurs éléments. Et du coup, la petite blague, c'est que si ils ont entraîné avec les données de leurs clients, les données des clients peuvent se retrouver diffusées, il n'y a pas de problème. Mais elles ne seront jamais diffusées telles qu'elles, il y aura juste des gros morceaux.
C'est pas pour rien que puis on n'aura pas la preuve. De nombreuses boîtes d'informatique notamment mettent en garde leurs salariés contre l'utilisation de ce genre de services pour créer du code source, puisque ça permet de faire un agent conversationnel, pour discuter avec
ChatGPT,
mais ça permet aussi de générer du code informatique et ça à des gros risques de fuite de
copyright.
De, ouais, de, pas uniquement de copyright, mais même d'information, en fait, parce que forcément, pour créer du code source, pour créer du code informatique, il faut aussi donner des informations un peu sur ton projet, ton travail. Parce que le code informatique, c'est pas juste pour l'histoire de produire du code, sauf si c'est un TP.
J'ai vu des gens, je crois avoir vu un article, il faudrait que je retrouve dans mes archives chez moi, où ils ont fait sortir des mots de passe à ChatGPT ou ce genre de choses parce que le code source qu'il avait appris contenait des mots de passe.
Pas mal.
Voilà. Bravo ChatGPT.
Merci Pierre. C'était donc l'actualité des deux semaines écoulées et juste après un troisième morceau de musique, nous retrouverons la dégeekilisation. Mais en attendant, nous allons écouter Crumb Snatcher, Swimming Upstream. Vous écoutez Codec News sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'était Crumb Snatcher, Swimming Upstream. Vous écoutez les codes sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la dégeekalisation. Aujourd'hui, on va parler d'un projet que Pierre aime bien. Il a encore défendu là, il y a un mois parce qu'il n'était pas convié au FOSDEM. On va donc parler, ou plutôt Pierre va parler, de la gestion des paquets d'Haiku, les avantages d'une nouvelle approche sur la distribution de logiciels.
Tout à fait.
C'est technique aujourd'hui.
Oui, bah, c'est le principe des dégeekalisations. Au bout d'un moment, si j'ai pas le droit de faire technique, je viens plus. Donc, Haiku, petit rappel des faits. Donc, Haiku est un système libre, c'est le principe de l'émission, qui est un clone de BOS. Alors, on va remonter dans le passé, dans les années 90. BOS était un système concurrent des Windows, Mac OS de l'époque. Et donc, ça visait à faire un système d'exploitation pour le PC, pour l'utilisateur lambda, avec surtout une interface graphique et à destination massivement des systèmes multimédia. BOS est mort, enterré, voilà, on n'en parlera plus jamais parce qu'il s'est fait tuer notamment par Microsoft. Haiku est un clone de BOS, donc maintenant qui a pris sa propre direction. Et là, on va parler d'un aspect d'Haiku que je trouve extrêmement intéressant, c'est sa façon de gérer les logiciels. Dans le monde de Linux, on a les paquets, des distributions. On a parlé tout à l'heure de Flatpak, qui est un complément, un concurrent en quelque sorte de cet élément-là dans les distributions. Mais Haiku a un système qui lui est propre, qui est assez proche en fonctionnement de Flatpak, mais qui est implémenté d'une façon que Flatpak ne peut faire. On en reviendra un peu après sur pourquoi que eux ils ont pu faire ça et que Flatpak il peut pas. Et avec un ensemble d'avantages, du coup, assez intéressants. Par contre, il y a un compromis à ça. C'est Haiku. Alors, je ne sais plus dans quelle version ça a été. Je ne sais plus, je sais plus si la version 3, la bêta 3 ou la bêta 4 d'Haiku. Il y a eu une pause de 4 ou 5 ans entre deux versions de l'OS. Et ben, c'est parce qu'à ce moment-là, ils faisaient la transition de leur ancien système où il n'y avait pas de gestion de paquets à ce système-là de paquets de distribution de logiciels. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a été un changement très difficile pour le projet, mais clairement, quand on voit le résultat aujourd'hui, c'est un changement qui a été extrêmement bénéfique. Donc du coup, qu'est-ce que c'est ? Sur Haiku, les logiciels sont diffusés sous la forme de fichiers HPKG comme Haiku Package. Voilà, c'est un fichier. Donc, et quand il s'agit d'installer un paquet, donc vous avez votre HPKG, et ben on le dépose dans le dossier System Package. Alors il y a un logiciel qui va le valider. Ouais, donc est-ce que les dépendances sont bien présentes? Oui, est-ce qu'il est correct? Ok. Je l'active. Et donc, il y a la possibilité de revenir en arrière, revenir à avant l'activation. Par exemple, si vous mettez une mise à jour de n'importe quel logiciel et que ça ne marche pas, et ben vous pouvez revenir à l'état précédent.
Même typiquement, alors ça arrive quand on fait une mise à jour Debian, voulez-vous supprimer tel paquet ? Ça peut arriver, on hésite, on fait oui, et on a potentiellement pété sa distro. Là, on peut revenir sans risque à l'état précédent.
Normalement, oui, on c'est, en tout cas, c'est implémentable. Je ne sais pas si pour la suppression de paquet, je n'ai pas vérifié.
Pour moi, c'est un des cas où typiquement, tu peux casser quelque chose.
Alors normalement, je pense que supprimer un paquet, en fait, tu peux passer à l'état paquet désactivé. En fait, avant de supprimer le fichier réellement sur le disque.
D'accord.
Donc, normalement, si c'est implémenté comme ça, si tu désactives avant de supprimer, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et c'est intéressant, c'est que ça marche pour toutes les applications sont diffusées comme ça. Lorsque tu installes le système, tu as un dossier System Package avec tout plein de fichiers PKG. L'interface graphique, le navigateur web, le gestionnaire de fichiers, tout ça, c'est des fichiers PKG comme ça, distribués comme ça. Donc, gros avantage par rapport à un système Linux où on a les distributions qui font un hybride entre la distribution qui distribue plein de composants en fichiers DEB ou en fichiers RPM et des applications en Flatpak, et là, tout le monde utilise le même format. Déjà, c'est un gros avantage, je trouve, c'est que c'est un système cohérent et il n'y a pas des gens qui vont dire « Oh non, ce truc-là, il m'embête, je préfère comme ça parce que j'ai ça et ça comme avantage, c'est beaucoup plus pratique pour moi. » Là, il n'y a pas déjà ce problème de compromis entre les deux. Autre gros avantage que je vois sur le fonctionnement d'Haiku, et là, je vais me permettre de taper assez largement sur le fonctionnement sous Linux là-dessus. Lorsque les développeurs d'Haiku ont décidé de mettre ça en place, ils ont rencontré un ensemble de problèmes techniques assez pointus à régler. Parce que là, ce que je viens d'écrire, on a un dossier avec tous les fichiers de paquets côte à côte. À aucun moment, les fichiers de paquets ne sont décompressés et copiés sur le disque ailleurs. Les fichiers HPKG, ils restent comme ça, tels quels. Et en fait, ils ont développé au sein du noyau d'Haiku la possibilité d'afficher une arborescence qui unit, enfin qui unifie tous les contenus des paquets comme s'ils avaient été décompressés. Et quand on ouvre un fichier, ben ça prend le fichier dans le bon paquet directement.
D'accord. Donc
c'est un système qui est immutable en lecture seule. De toute façon, tu n'es pas censé modifier le contenu du paquet. Je vois Alexandre.
Oui, je sais. Parce que pour moi, voilà, tel que je connais un système de paquets, c'est une archive qui va déposer des fichiers dans une arborescence.
Et bien justement, là, ils ont dit, c'est une archive qui dépose les fichiers dans une arborescence, mais il n'y a pas besoin de déposer réellement les fichiers sur le disque dur. On les garde dans le paquet.
Voilà, en gros, c'est que des liens symboliques avec une décompression à la volée, si je comprends.
Et encore, c'est même, les liens symboliques sont uniquement en mémoire. C'est assez pointu. Honnêtement, à utiliser, ça marche du feu de Dieu, c'est extrêmement fluide, c'est très bien fait. Ouais. Et c'est là où il l'emporte largement face à notamment Flatpak. Flatpak.
Pour la concevoir, c'est assez. C'est une esprit quand même.
Ah non, mais les développeurs qui ont eu cette idée-là, c'est une excellente idée. Et c'est là où il y a un énorme avantage pour des projets comme Haiku. La même chose sous Linux, c'est quasiment impossible à faire.
Donc l'arborescence principale, en dur, vraiment écrit sur le disque, il y a quoi dedans ?
Il y a les fichiers HPKG.
Il y a que ça ?
Il y a que ça, et le noyau et quelques fichiers. Et le noyau, les fichiers HPKG, tes fichiers de configuration et tes fichiers personnels.
T'as le slash etc, ton slash home, le
reste. L'équivalent, ouais.
D'accord, ouais, l'équivalent, parce que bon, là, c'est pas de l'Unix, quoi. Oui, c'est vrai que c'est un clone de BIOS, c'est pas un clone d'Unix, c'est vrai.
Donc, mais voilà, mais l'idée est là, oui. T'as pas besoin d'avoir. Tu installes, je sais pas, tu installes Bash, et ben t'as pas de fichier Bash. Y'a pas besoin. T'as un fichier bash-numéro-de-version.hpkg, et au démarrage du système, en mémoire, il va dire ok, donc si on me demande Bash, il est là.
Ça, c'est une fonctionnalité de BIOS ou c'est Haiku qui l'a
créé ? C'est Haiku qui l'a créé. Ah, Haiku qui a créé tout ça.
Donc c'est vraiment, c'est pas juste un clone. Pour le coup, il y a vraiment
c'est de l'innovation du coup maintenant. Ouais. Ils ont passé l'étape du clone. Hein. Cloner un système des années 90, il y a quand même des grosses limites. Là, ils ont passé largement cette étape. Et juste pour revenir du coup à pourquoi je trouve ça vraiment cool et surtout pourquoi Flatpak ne peut pas fonctionner comme ça et a là-dessus un gros inconvénient, pour développer tout ça, ils ont dû modifier tout le système. Ils ont dû tout modifier pendant plusieurs années. Et ils ont dû synchroniser des changements au niveau du noyau, donc la partie la plus bas niveau du système d'exploitation, des changements sur l'interface utilisateur, des changements sur la distribution du système, sur sa mise en place. Ils ont dû tout changer. Sous Linux, s'il fallait faire un tel changement, ça serait hyper compliqué, pour ne pas dire impossible. Imaginons que Flatpak décide d'avoir un système d'arborescence comme Haiku. Eh bien, ça veut dire que le projet Flatpak doit faire un patch au noyau Linux, le proposer, le faire accepter, pour avoir un système de fichiers virtuels qui fasse cette fonctionnalité-là. Et que tout le monde se mette d'accord pour l'utiliser, et que derrière, les distributions acceptent de l'intégrer dans leur noyau, et que derrière, les distributions qui utilisent Flatpak et qui distribuent Flatpak puissent utiliser cette fonctionnalité.
Après, quand il y a moins d'utilisateurs et moins de mainteneurs, c'est plus simple aussi.
On tombe aussi sur la limite majeure. Et là-dessus, je pense que c'est quand même un énorme frein pour... On en parle souvent de Linux sur le bureau. Je reste quand même assez pessimiste parce que justement, il y a ce côté bazar. Tout le monde peut créer une distribution Linux et tout le monde a créé une distribution Linux dans les années 90 et aujourd'hui, c'est un frein justement à ce genre d'évolution.
Sa vitalité. Et
c'est ce qui fait son avantage, mais c'est aussi sa faiblesse.
Voilà.
Donc voilà. Et aussi, ben, ça montre que les systèmes alternatifs, ça permet de développer des choses intéressantes.
Merci Pierre pour cette petite page recherche et développement dans les systèmes d'exploitation.
De rien.
C'est
on pourra en faire d'autres.
C'est donc non, mais c'était vraiment passionnant, Pierre.
Merci. On a de l'agenda.
Un petit point sur l'agenda, effectivement. Une foire aux installs, ce qu'on appelait dans le temps une install party, mais le terme a été francisé. Donc, sera le samedi 18 mars.
On est vieux.
2023. Évidemment, on ne parle que des événements de cette année. De 14h à 18h, ce sera où ? Ce sera à la bibliothèque municipale Jean-Lévy de Lille, donc c'est la bibliothèque centrale. 32 rue Édouard de Lesseul, c'est pas très loin de la rue du Moulinel, pour ceux qui connaissent Lille. C'est donc métro République Beaux-Arts. Et c'est pas très loin du Café Citoyen, où se tiendra la permanence du dernier mardi de chaque mois. Ce sera le mardi 28 de 20h à 23h, donc au Café Citoyen, place du Vieux Marché aux Chevaux à Lille, également métro République Beaux-Arts, avec ses boissons bio et équitables. C'était le...
Raoul,
Et les Raoul, alors oui, alors
Assemblée générale des Raoul, mercredi 15.
On sait pas où, mais on sait pas où.
Ah, ils ont pas
Oups. Je disais qu'il y avait chez eux une certaine confusion sur le fait s'il fallait communiquer ou pas. Donc, le message, c'est que les Raoul, donc le chaton lillois, est toujours vivant, existe, va bientôt faire son Assemblée générale. Ce sera donc mercredi. Et ils sont évidemment les bienvenus pour faire part de leurs avancées dans cette émission. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée. C'était le 248e numéro des Codecs. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour les Codecs Nous 249. Nous serons donc le dimanche 26 mars à 19h.
Ciao,
au revoir à tous.